Bien, bonsoir et donc bienvenue à cette dernière session qui est une table ronde qui aura lieu en français. Je voudrais d'abord vous dire que Madame Royal a un peu à la dernière minute indiqué qu'elle ne pourrait pas venir et nous a prié de l'excuser, donc je le fais bien volontiers puisque c'est elle qui devait faire l'introduction à cette table ronde et nous aurions été heureux qu'elle puisse le faire, mais elle a évidemment un emploi du temps extrêmement chargé et qui l'a forcée à renoncer à nous voir, ce qui évidemment était gênant pour elle, mais également pour nous. Nous sommes, donc, vous voyez autour de cette table ronde, nous sommes donc six et je vais ouvrir un peu la table ronde en indiquant les questions que je soumets à mes voisins et à vous tous, en leur donnant à chacun 5 minutes pour répondre dans un premier temps, et ensuite la conversation pourra aller dans diverses directions. Alors, la question que je voudrais poser à tous ceux qui sont autour de cette table est un peu la suivante. Nous venons de passer 2 jours ensemble, avoir écouté un certain nombre d'exposés. Je crois que l'avis général est que la qualité, la densité de l'information qui nous a été fournie était excellente. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Mais en tout cas, à partir de ça, qu'est-ce que ça a changé, au fond, selon votre sentiment ? Donc, je m'adresse à mes voisins, mais vous pouvez évidemment réfléchir en votre fort intérieur. Ça a changé à votre sentiment sur trois grands types de questions. La première, qu'est-ce qui va se passer à la COP21 à Paris bientôt. Alors, l'INDC, dont Carleux nous a parlé, est-ce que c'est une bouteille à moitié vide ou une bouteille à moitié pleine ? On a eu des points de vue relativement pessimistes hier sur ce à quoi conduisait l'INDC. Et ce matin, Carlo nous a présenté un point de vue beaucoup plus optimiste. J'aimerais bien que chacun réagisse un petit peu sur cette différence de perspective et qu'on en reparle. Deuxième problème qui était évoqué et qui était en filigrane de beaucoup d'interventions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à terme, à plus long terme, en termes de gouvernance mondiale, hein, une fois lorsqu'on voudra vraiment stabiliser après 2020-2030, qu'est-ce qu'on pourra faire en termes de gouvernance mondiale, prix unique du carbone, comment faire ? Est-ce que Martin Weitzman nous a expliqué qu'il valait mieux une négociation ? Alors là, moi, je dois dire que j'ai appris des choses. Hein. Je savais ce qu'il fallait faire si j'étais nommé dictateur bienveillant de l'humanité. Hein. Je pensais qu'il fallait mettre un système de marché cap and trade mondial, donner des quotas aux pays, et je m'étais dit que je fonderais ces quotas sur des allocations par tête identiques. Et j'ai reçu des menaces d'un certain nombre de services secrets de pays développés, et donc j'ai renoncé à cette solution. Donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le moyen de mettre en œuvre cette solution. J'ai appris avec Martin Weitzman ce qu'il fallait faire si j'étais le président de la République mondiale et que tous les États étaient mes citoyens. À ce moment-là, je ferais un vote à la majorité, et les résultats qu'on a en théorie du choix social me disent que je trouverais un accord sur le prix, sur la taxe carbone, qui serait satisfaisant. Donc j'ai quand même progressé. Je ne sais toujours pas ce que je devrais faire si j'étais dans la situation actuelle, dans laquelle je ne suis ni dictateur mondial, ni président de la République des Nations, mais où, admettons, je serais président de la République de ce pays, par exemple. Je ne sais toujours pas ce que je devrais faire. Mais je vais sûrement l'apprendre après vos interventions. La troisième question, j'arrête là cette plaisanterie, mais la troisième question, mais évidemment, c'est une question qui est essentielle. La troisième question, c'est à partir de ce qui va se passer sur la COP tel qu'on peut le pressentir, et en gardant à l'idée que c'est insuffisant pour faire ce que l'on souhaiterait à terme en matière climatique, quels sont les chemins qu'il faudrait essayer d'explorer ou pour lesquels il y a une chance de faire des progrès qui nous amènent à un mode de gouvernance mondiale plus satisfaisant, c'est-à-dire entre les contraintes d'aujourd'hui, l'idéal de demain, est-ce qu'il y a, donc entre les grandes rivières, qui est l'idéal de demain. Les contraintes d'aujourd'hui, c'est les petits ruisseaux. Est-ce qu'il y a des petites rivières qui peuvent améliorer les choses? Voilà donc un petit peu les questions sur lesquelles chacun va réagir. Le premier qui va réagir, c'est Thomas, qui va essayer de donner sa propre vue, son propre résumé de ces deux journées. Thomas, je te passe la parole. Alors, l'idée, c'est que chacun des intervenants a à peu près 5 minutes. Hein. Thomas, tu auras peut-être droit à 6 minutes. Hein.
C'est gentil, mais ce n'est pas facile de résumer toute la discussion. Ça a été une discussion très riche sur des problèmes vastes. Mais commençons par quelques mauvaises nouvelles, quand même. La semaine passée, il y a paru dans la revue Nature un nouveau article démontrant des auteurs Burke et Siang et démontrant que les dommages du changement climatique probablement sont beaucoup plus sévères de ce qu'on avait pensé. Le monde perdra beaucoup de croissance économique et les inégalités vont être accrues. C'est-à-dire que les pays pauvres perdront plus. Nous savons que les négociations qui sont actuellement à Paris, mais en fait, ce qui est une espèce de théâtre global qui continue, comme Scott Barrett l'a démontré depuis 1988 au moins, il y a eu tous les 5 ans ces grandes réunions, on discute. Presque comme un cycle, les thèmes varient un peu, mais on est revenu maintenant au même point où on était il y a 25 ans. Je veux pas être pessimiste parce que c'est un problème trop important, mais c'est quand même, ça serait trop optimiste d'espérer beaucoup de solutions à Paris. Les INDC, c'est-à-dire les contributions que chaque pays détermine soi-même, ils sont volontaires, ce sont des contributions prévues, il y a très peu de coordination et très peu de mécanismes de contrôle. Et on dit cela, je crois que c'est quand même, c'est peut-être un pas nécessaire, mais on est très loin d'une traité contraignante. Marty Weitzman a parlé d'une manière très convaincante de ce qu'on peut-être la structure des négociations et on discute pas du bon mécanisme, qu'au lieu de négocier sur les quantités, on aurait dû plutôt négocier sur un prix minimum. Il y a beaucoup d'économistes qui pensent cela. Ajouter à tous ces problèmes, il y a beaucoup de problèmes d'inégalité mondiale et de lobbyisme, de political economy, des choses qui s'ajoutent aux problèmes et les font plus compliqués. J'étais dans le GIEC et j'ai présenté juste un chapitre sur les instruments. Il y a des ceux qui veulent voir du côté plus positif, ils disent que oui, il y a plus de pays qui adoptent des instruments pour gérer le climat, soit des taxes, soit des permis, systèmes de permis négociables. Mais c'est souvent à des niveaux tellement bas, le prix impliqué est tellement peu, qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais bon, c'est un début, évidemment. Ça risque. Tout cela, les processus politiques, l'adaptation des instruments, ça risque d'aller beaucoup trop lentement, à mon avis, vu que les dommages peut-être sont plus graves qu'on avait pensé. Il faut, comme Stéphane Alliat a montré, il faut en fait viser une décarbonisation totale de l'économie. Cela implique peut-être d'autres stratégies que juste une réduction de 20-30%. Il semble qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les émissions, ils montent comme ça, toujours, ils montent. Et peut-être un jour, si la Chine, par exemple, en 2030, ça va tourner. Et c'est comme, après, tout le monde pense que par magie, ça, ah oui, ça a tourné, donc ça tombera vite, toute seule, à zéro. Mais ce n'est pas le cas. Chaque année, ça risque à encore démarrer, à augmenter. Il faudra une politique chaque année plus sévère. Donc, il y a plein de difficultés. Il y a aussi eu des points qui font un peu plus d'espoir. Et entre eux, il y a le progrès technique en général. Le progrès technique qui nous donne plus d'efficience, mais surtout dans les domaines énergie renouvelable, et surtout le solaire, peut-être. Apparemment, il y a c'est un domaine de technologie qui est un peu comme ce qu'on a eu dans la computation aussi, où chaque fois qu'on fait plus petit, l'échelle de chaque objet est plus grand, l'échelle de production en total, les coûts diminuent. Et donc, là, il me semble qu'il y a des espoirs. C'est-à-dire qu'on a démontré qu'en fait, il y a une possibilité de solutionner. Ça ne veut pas dire que c'est résolu. Ce n'est pas le cas. Il faut quand même toujours un prix sur la carbone. Sinon, on est tout à fait capable, l'humanité est tout à fait capable de dépenser beaucoup d'énergie renouvelable et en plus beaucoup d'énergie fossile. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire des efforts. Les efforts seront toujours nécessaires et toujours difficiles, mais un peu moins difficiles. C'est-à-dire que la vélocité du progrès technique dans le domaine renouvelable nous donne des possibilités d'affaiblir les lobbies fossiles, de renforcer les lobbies vertes et de faire passer des règles, des instruments, des traités de plus en plus contraignants dans les années... bon, il faut faire vite, mais dans les années prochaines. Je crois que ce qu'on doit faire à Paris, c'est à démarrer ce processus.
Merci Thomas. Je vais passer la parole maintenant à Carlo Carraro. Université de Venise, à toi.
Merci Roger.
C'est toi qui as donné le point de vue optimiste.
Voilà,
sur
j'ai déjà parlé des INDCs et du fait que de toute façon c'est un grand résultat par rapport au passé. On a eu des augmentations des émissions dans les dernières 10 années qu'on n'a jamais vu avant, donc c'est extraordinaire. 10 ans qu'on négocie, qu'on discute, qu'on fait des choses. Qu'on observe des réductions énormes des prix des renouvelables et en même temps les émissions qui augmentent. Donc Paris aura au moins comme un résultat important le fait de stabiliser. Donc les émissions ne vont pas se réduire, bon, elles vont être réduites par rapport au business as usual, mais certainement en termes absolus, elles ne vont pas se réduire. On aura plus ou moins une stabilisation. Bon, évidemment, il faut voir ce qu'on signifie avec stabilisation. Aujourd'hui, la UNFCCC a publié, en fait, il y a 2 heures, son assessment des INDCs, et il montre qu'en termes d'émissions absolues, on va les augmenter de 10% au 2030. Donc, c'est presque stable. Si on pense qu'on a eu un taux d'augmentation de 2,3% par an dans les dernières 10 années, stabilisé ou presque à 2030, c'est déjà un bon résultat. Donc le verre moitié plein, il faut le considérer. De l'autre côté, on sait pas seulement que ce n'est pas suffisant, mais qu'en fait le vrai objectif de la conférence de Paris n'est pas la réduction des émissions. On y est, tout ça, les INDC, on les a déjà obtenus. Le vrai objectif, c'est de mettre en place un mécanisme de contrôle, donc de vérification des politiques nationales, des sanctions s'il y a des pays qui ne respectent pas les engagements, et d'introduction des mesures que les pays en voie de développement demandent pour réduire leurs émissions, parce que la partie conditionnelle est importante. Donc, elle fait plus ou moins un tiers du total. Donc, il faut que les mesures de support, support technologique et support financier soient mises en place. Donc, en fait, les vrais nœuds, les vrais enjeux de Paris seront la gouvernance, donc les mécanismes qu'on va mettre en place pour vérifier, contrôler, appliquer, et les financements. Là aussi, on est à un point assez intéressant parce que la conférence de Lima nous a dit que plus ou moins 80 des 100 millions de dollars qui sont nécessaires ont été versés, mais les pays se sont engagés à les verser. C'est déjà quelque chose de bien, vu que plus ou moins on était à 10 milliards de dollars, maintenant on est à 80 et on doit arriver à 100, et probablement à Paris on arrivera à 100. Mais après, il faut les dépenser, il faut trouver des mécanismes et donc un modèle de gouvernance pour les employer, pour les utiliser dans les pays en voie de développement. Dans la conférence, on a entendu vraiment beaucoup de choses intéressantes. La dernière session sur la finance, je crois qu'elle a été très utile, et en particulier l'intervention de Patrick Bolton, parce qu'elle nous montre que maintenant, il y a un joueur qui va rentrer dans le terrain et qui va beaucoup aider. Parce que quand les institutions financières, les fonds monétaires internationaux, qui vont utiliser les risques de changement climatique comme critère d'évaluation des investissements. Ou la bourse elle-même, parce que quand on construit des index qui considèrent les risques des changements climatiques ou les risques des politiques de mitigation, c'est-à-dire la possibilité que certaines réserves des combustibles fossiles ne soient pas utilisées et donc la valeur des sociétés soit diminuée, bien, quand on fait ça, on a dans les terrains un joueur de poids, quelqu'un qui peut changer l'équilibre du match et quelqu'un qui peut le bouleverser au point que le résultat soit bien favorable à ceux qui sont en train de lutter, faire, négocier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un autre discours, et je termine.
Oui, je t'en prie, excuse-moi. Juste
encore une minute, parce qu'on n'a vraiment pas parlé dans ces deux journées, ce n'était pas le but, des politiques d'adaptation au changement climatique. Mais à Paris, on en parlera beaucoup, et il y a une raison. Comme monsieur disait ce matin, les concentrations sont à 400 parts par million de volume, les 2 degrés d'augmentation de la température seront difficilement évitables, et Thomas nous rappeler que les conséquences de ce changement vont être plus graves de se compenser et plus rapides de se compenser. Il suffit de voir ce qui s'est en train de passer dans l'Arctique. On s'est trompé, mais on s'est trompé dans le sens qu'on avait prévu que le ice melting, en français, melting...
Le
fond de glace allait se passer très lentement et en fait, ça se passe à une rapidité incroyable. Dans 10 ans, il y aura au mois de septembre pas un seul petit bout de glace dans les pôles nord. Et évidemment, après, il y aura l'hiver, il va se réformer en partie, mais bon, c'est un changement extraordinaire qu'on n'avait pas prévu. Donc, ça arrive plus vite et ça arrive d'une façon plus grave. Donc, il faut se préparer. Ça aussi pourrait être une opportunité d'investissement, de développement, mais il faut le faire. Et il faut redirectionner, il faut faire converger beaucoup d'investissements dans la bonne direction. Pour cela, il faut que la valeur de toutes ces actions pour réduire les émissions et contrôler les impacts des changements climatiques ait un prix et une valeur. Et donc, raisonner, réfléchir après Paris sur un carbon price, sur un prix du carbone, c'est très important.
Merci Carlo d'avoir réagi sur la plupart des sujets et d'avoir justifié ton optimisme. Je passe la parole à Christian de Pertuis.
Merci Roger. Colloque passionnant. Je pense que 3 questions sont soulevées. 1. Est-ce que la COP21 est susceptible d'accélérer la tarification internationale du carbone ? On a un accord très large sur les économistes pour la direction dans laquelle il faut aller, mais on a beaucoup vu hier que le chemin pour y aller est difficile. Et je crois qu'une chose importante qu'on a entendue, c'est peut-être cette idée de club, qu'on ne va pas aller directement vers un système global de tarification et que des étapes par des clubs sont peut-être importantes. Deux, est-ce que cette tarification du carbone est susceptible de crédibiliser et de renforcer les INDC? Et je crois qu'il y a un peu deux sous-questions à cette deuxième question. C'est est-ce que ça peut aider à améliorer leur cost efficiency et donc à accroître leur ambition? Et puis, est-ce que cette tarification peut aider à la constitution d'un système de mesures, reporting et vérification qui est extrêmement important et qui est au cœur de la négociation? Et moi, je ne crois pas que on pourra y arriver s'il n'y a pas d'incitation économique pour faire rentrer les pays dans le système de MRV. Et puis, trois, est-ce que cette tarification du carbone va contribuer à crédibiliser les promesses de transfert financier de 100 milliards de dollars par an? Et je dois dire que je ne partage pas tout à fait l'optimisme de Carlo sur le fait que ces 100 dollars sont déjà là. Alors, 100 milliards, oui, 100 milliards, pardon. Oui. Bon. On est bien d'accord, 100 milliards. Bon. Alors, quelles sont un peu les voies pour accélérer les choses et quels sont les travaux qu'on va avoir à mener après la COP? Parce que ce qui est important, c'est effectivement de voir qu'est-ce qu'on pourra faire après la COP. Donc moi, je vois un peu de pistes sur lesquelles on peut se baser. La première, je crois qu'il serait judicieux de réfléchir à un système d'amorçage. Un système d'amorçage qui fonctionnerait sur la base d'un système qu'on appelle en français le bonus-malus et qui, en anglais, s'appelle le carbon price and rebate. L'idée serait de fixer un niveau de référence moyen qui est le niveau de référence, les émissions par habitant. C'est assez voisin de ce que disait Roger tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas sur le cap, ça fonctionne sur le prix. Parce que j'ai bien entendu ce qu'a dit Marty, si on veut aller vite sur quelque chose, il faut aller sur le prix direct. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à un dispositif dans lequel on fixe une référence mondiale qui est l'émission par habitant, et chaque pays qui aurait un niveau d'émission par habitant supérieur à cette référence, eh bien, il aurait une dette à l'égard de la collectivité, et chaque pays qui serait en dessous de cette référence, il aurait une créance qui serait calculée comme l'écart à la moyenne multipliée par sa population. Est-ce que cette créance est recouvrable de façon automatique? Non. Il faudrait, pour pouvoir récupérer cette créance, rentrer dans le système de MRV. Donc on aurait là un instrument qui serait extrêmement puissant pour inciter les pays faiblement émetteurs qui ne sont pas dans le système de MRV. Et évidemment, il faudrait trouver les moyens de convaincre les pays débiteurs de payer leurs dettes. Et de ce point de vue-là, je crois que même si on peut faire confiance à la finance pour trouver des effets de levier et trouver des financements, je crois qu'on n'aura pas d'accord ambitieux à terme et de réduction des émissions de gaz à effet de serre si à un moment donné, il n'y a pas un principe très simple qui s'applique que les gros émetteurs payent le prix du carbone. Alors comment est-ce que ce système peut être mis en place? Il est évident que si on se réfère aux valeurs sociales du carbone, on ne va jamais le mettre en place. Il faut partir sur cette assiette large avec un prix très faible. Avec un dollar la tonne de CO2, je transfère 14 milliards, compte tenu des niveaux d'émissions de 2012 ou 2013, je ne me souviens plus. Avec 7 dollars la tonne de CO2, on transfère 100 milliards de dollars par an. En régime de croisière, ce dispositif aurait une fonction tout à fait intéressante, c'est que chaque pays serait incité à réduire plus vite que la moyenne mondiale ou à augmenter moins vite que la moyenne mondiale pour soit augmenter son bonus s'il a un bonus initial, soit réduire son malus s'il a un malus initial. Donc je crois qu'on aurait intérêt à réfléchir sur ce dispositif d'amorçage qui ensuite pourrait se transformer, à mesure que le temps avance, en un régime peut-être très différent, où on changerait la référence moyenne et on passerait peut-être de la référence moyenne à une référence future, et on pourrait transformer ce dispositif d'amorçage en un système de taxe carbone, un peu à la Marty. Deuxième point, sur la notion de club, Je suis absolument frappé de voir qu'aujourd'hui, si on agrège les émissions européennes, où nous avons les UTS, les émissions chinoises, où bientôt 7 pilotes d'émissions de trading vont se transformer en un énorme système de trading de carbone en Chine, si on additionne la Corée et les États de Nord-Amérique où se développent des marchés du carbone, on a déjà une masse critique. Et ce qui est incroyable, c'est que ces marchés se développent dans des modalités totalement non coordonnées avec des dispositifs qui ne peuvent pas communiquer. L'exemple extrême étant aux États-Unis, entre le RGGI et la Californie, le prix maximum de l'un est en dessous du prix minimum de l'autre. Si vous voulez. Alors, je crois qu'une grande avancée qui pourrait découler de la conférence de Paris serait qu'il y ait effectivement un changement total dans la façon dont on gère ces marchés de façon désordonnée pour converger entre 2015, date de signature de l'accord, et 2020, date d'entrée de l'accord, vers un système unifié de marché du carbone transcontinental, avec un risque. Le risque, c'est que si on fait le linking, comme beaucoup le préconisent aujourd'hui, avec les marchés existants, on va avoir un équilibre vers le bas. Car on a à peu près partout des marchés du carbone qui, comme ils sont gérés de façon non coordonnée, ben on a la trouille. On a la trouille que le prix monte trop et du coup le prix va baisser. Donc ceci impliquerait une impulsion politique forte et une gouvernance qui n'a absolument aucune comparaison avec le très faible niveau de gouvernance des marchés du carbone dans le monde aujourd'hui, notamment la gouvernance extrêmement défaillante du marché européen des quotas de CO2. Donc, en conclusion, je ne partage pas totalement l'optimisme de Carlo, mais je suis solidaire de son engagement, et je pense que l'outcome de la conférence de Paris devrait nous donner des moyens nouveaux de progresser vers cette tarification du carbone à deux niveaux que j'ai décrits. Merci de votre attention.
Merci, Christian. Je vais passer la parole à ton voisin de gauche, monsieur, qui va répondre certainement à notre question, mais avec son point de vue personnel qui est finance oriented, comme on dit en anglais.
Merci beaucoup. Enfin, un point de vue en tout cas qui exprime celui que, du côté des autorités publiques, en tout cas des autorités du ministère des Finances, on a essayé d'inscrire dans ces travaux. Mon propos d'ailleurs est beaucoup plus circonscrit que les exposés précédents. Mon propos est beaucoup plus circonscrit que les interventions précédentes et se concentre sur un des aspects qui est l'aspect gouvernance mondiale, sur lequel il me semble que le sommet de Paris apporte une dimension qui est novatrice. Cette dimension n'est pas centrale dans les discussions, mais elle est nouvelle et pour nous, elle est porteuse d'un certain nombre d'espoirs. La question, c'est l'association du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique à travers l'implication qu'on a essayé d'obtenir du Conseil de stabilité financière dans les travaux de la COP21. Je crois que cette application, elle vise plusieurs objectifs. Le premier, c'est un objectif de prise en compte des risques climatiques, de meilleure prise en compte des risques climatiques par le secteur financier. Alors, ces risques climatiques peuvent se décliner en plusieurs catégories. Il y a évidemment le risque physique, ça c'est plutôt le sujet des assureurs qui sont exposés à un risque physique sur des actifs ou des infrastructures. Mais au-delà de ce risque-là, il y a la question du risque sur les actifs qui est lié au changement de politique publique et notamment à l'introduction du signal prix qui ne peut venir que de la régulation publique sur la valorisation des actifs. Ce sujet, il répond finalement à une préoccupation qui est ce que le gouverneur de la Banque d'Angleterre appelle la tragédie des horizons. On a un horizon des phénomènes de changement climatique qui est éloigné, alors peut-être moins éloigné que ce qu'on pense, et un horizon qui est un horizon de régulation du secteur financier qui est un horizon beaucoup plus court. Et donc la question, c'est comment on arrive à dépasser cet horizon pour l'inscrire davantage dans l'horizon qui est celui du changement climatique. Donc les travaux qu'on espère impulser lors de cette conférence et surtout à la suite de cette conférence, c'est des travaux qui poussent le secteur financier à mieux appréhender son exposition au risque climatique et son exposition aux changements de politique publique qui seront introduits si le monde est réellement sérieux dans la poursuite d'un objectif de réduction des émissions. L'ampleur de ces changements peut être considérable. Je me souviens de développement et d'exposés qui montraient que si toutes les réserves de pétrole étaient... si on ne brûlait les réserves de pétrole qui ne correspondent que à l'atteinte, qui ne sont cohérentes qu'avec l'atteinte de l'objectif de réchauffement de 1,5 degré ou 2 degrés, on ne brûlerait en réalité qu'une proportion très faible des réserves qui sont prouvées et dont la valeur est déjà incorporée dans la valorisation des différentes compagnies pétrolières. Donc on a potentiellement des ajustements sur prix actifs massifs liés au fait que cette problématique du changement climatique est correctement intégrée. Il y a une troisième dimension qui est importante aussi, qui est une dimension réputationnelle, un peu dans ce que font les superviseurs bancaires, dans ce qu'on appelle le pilier 3, qui est l'exposition, la sensibilité publique plus forte sur les enjeux de risque climatique, qui eux-mêmes peuvent conduire à des changements de perception importants qui rentrent également dans des logiques de valorisation. Ça, c'est la première dimension qui est la prise en compte du risque. Nous sommes novatrices et on espère que la conférence de Paris installera dans l'agenda international et notamment dans l'agenda du Conseil de stabilité financière cette dimension-là. On espère le faire à deux égards. Le premier, c'est en mettant en place un cadre mondial de reporting sur le risque climatique et l'exposition au risque climatique pour le secteur financier. Et le deuxième, c'est de généraliser ce qu'on a essayé de commencer à faire en France, qui est un stress test, pour les acteurs financiers au titre de leur exposition au risque climatique. Donc un cadre harmonisé d'appréciation dans des scénarios sur le principe des stress tests, avec un scénario central, des scénarios dégradés, qui permettent de voir quel est le degré de résistance, quel est le degré d'exposition du secteur financier à ce type de risque. Il y a une troisième et dernière dimension, et je finirai là-dessus, qui est la mise en place d'un cadre institutionnel qui favorise l'investissement dans la transition énergétique. Cette dimension, elle est évidemment présente depuis un certain temps. On espère l'approfondir et on espère la développer parce que on voit bien que si on fait le pari que... des sommes considérables, si on veut mobiliser des sommes considérables pour des investissements qui favorisent la transition énergétique, il faut évidemment un cadre tarifaire sur le carbone qui soit plus signifiant que le cadre tarifaire d'aujourd'hui. Il faut aussi un cadre institutionnel qui de stabilité contractuelle, de prévisibilité, qui incite le secteur financier à investir avec une visibilité suffisante sur les retours et les expositions dans le secteur financier. Donc voilà trois éléments qui, pour nous, sont trois éléments plus novateurs. Ils ne sont pas centraux dans les travaux de la COP21, mais on espère à cette occasion les installer dans le débat international et les faire vivre, surtout au sein du Conseil de stabilité financière. Merci.
Benoît Leguet.
Merci Roger et merci pour l'invitation à venir à cette table ronde finale. Alors je vais peut-être prendre 30 secondes pour présenter l'institution que je représente aujourd'hui parce que je n'ai pas l'avantage de travailler dans une institution très connue aujourd'hui. Je suis le directeur d'I4C. I4C, c'est Institute for Climate Economics. C'est une association entre la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Nous sommes un think tank qui nous intéressons aux outils économiques et financiers pour la transition énergétique. Donc, pour ceux qui nous connaissaient sous notre ancien nom, c'était CDC Climat Recherche. Voilà, maintenant, il va falloir s'habituer au nouveau nom, mais nous continuons à travailler sur les mêmes thèmes avec la même équipe, mais cette fois avec l'AFD. Alors, ce que je retiens du colloque, alors je vais essayer de m'inscrire dans les trous qui ont été laissés par les orateurs précédents. Ce que je retiens d'abord, c'est une phrase de Christian Gaulier, qui disait « les politiques ne connaissent rien, ne connaissent même pas Economics 101 ». J'aurais tendance à dire, ben, ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui ne connaissent pas International Climate Negotiations 101. À chacun son métier. Les politiques ont également des externalités à gérer, ça s'appelle « est-ce que je vais être élu ?» etc. etc. Et pas forcément, le climat n'est pas leur seule préoccupation. Donc, quelque part, sur ce constat, c'est très utile d'avoir des éclairages académiques, mais je rejoindrai Stéphane Algat quand il a dit « posons-nous aussi la question de la faisabilité de ce qu'on propose ». Et dans cette optique, alors il y a une discussion qui m'a passionné, c'est la question sur le prix du carbone. Alors, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, il ne va rien se passer à la COP21 sur le prix du carbone. En tout cas, ça ne fait pas partie du mandat des négociateurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer après, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer tout court, mais en tout cas, ce n'est pas dans le mandat des négociateurs qui sont réunis par la CNUC. Mais j'ai été frappé par la discussion. Je me suis posé plusieurs questions, donc j'ai essayé, sur le prix unique du carbone, d'aborder trois points, en suivant toujours la méthode de Stéphane Algat, il faut trois points. Première question, est-ce une bonne chose d'avoir un prix unique du carbone? Et là, j'ai vu des opinions différentes. Christian Gaulier qui disait, oui, il faut un prix unique du carbone, parce que finalement, c'est une externalité. Et Stéphane, qui avait plutôt l'air de dire « non, il faut des prix différenciés du carbone », et je crois comprendre que derrière cette question de prix différenciés du carbone, il y a dans ce cas des considérations sur la structure d'un secteur et finalement sur les co-bénéfices qu'un pays peut avoir à décarboner son économie. Donc finalement, j'ai l'impression que la question de prix unique du carbone, il n'y a pas de bonne réponse, tout dépend de la façon dont on considère le problème du changement climatique. Est-ce avant tout une externalité, donc est-ce qu'il faut sauver la planète, ou est-ce que c'est une chose qui est lié au co-bénéfice que je peux avoir à réduire les émissions, auquel cas la question c'est quel bénéfice pour moi finalement à mettre en place un prix du carbone. La question n'est pas tout à fait la même dans les deux cas. Deuxième question, est-ce utile d'avoir un prix unique du carbone? Alors, je suis un praticien du prix du carbone, on va dire. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40 prix du carbone explicites qui sont mis en place dans le monde à travers des systèmes de taxes, des systèmes de quotas. Et ces prix vont de 3 à 100 euros la tonne. Alors il y a une très grande dispersion. Il y a des pays développés qui sont couverts, des pays en développement. Vraiment beaucoup de systèmes qui permettent de tarifier le prix du carbone. La prochaine étape, et ça a été rappelé par Christian de Pertuis, la prochaine étape, c'est la généralisation d'un prix du carbone en Chine. Aujourd'hui, il y a quelques petits systèmes pilotes de tarification du carbone. Et normalement, dans quelques mois, on aura un prix, peut-être pas unique au niveau du pays, mais en tout cas un prix généralisé dans l'ensemble du pays. Alors j'aurais tendance à dire, est-ce utile d'avoir un prix unique du carbone au niveau mondial? Ben, faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Je constate qu'il y a des prix du carbone qui émergent. Ils n'ont pas l'air d'être uniques. Faut-il s'en plaindre? Je ne sais pas. Ou faut-il plutôt laisser, comme le suggérait Stéphane Algat, ces fleurs fleurir, et puis ensuite essayer de voir comment on peut recoller les morceaux? J'aurais plutôt tendance à avoir la deuxième approche en me disant, ne décourageons pas les bonnes volontés. Dans le pire des cas, on n'ira peut-être pas assez vite, mais à mon avis, on aura plus de chances d'avoir un prix du carbone dans des pays en leur disant « faites ce que vous voulez » qu'en leur tapant sur la tête en leur disant « mettez plutôt un prix du carbone élevé, s'il vous plaît ». Troisième question, est-ce faisable d'avoir un prix du carbone? Alors, dans le contexte actuel d'économie politique qui entoure la COP21, j'aurais tendance à dire « c'est difficile ». J'ai bien compris l'argument de Martin Weizmann qui disait « c'est plus facile de négocier un prix que 195 quotas ». Certes, mais aujourd'hui, personne ne négocie 195 quotas. On est dans un système de pledge and review, on n'est plus dans un problème, on n'est pas dans un système top-down. Donc finalement, même le fait de négocier 195 quotas, tout le monde a abandonné cette idée. Alors certes, négocier un prix, c'est peut-être plus simple, mais finalement, le mieux, c'est peut-être de ne pas négocier de prix, ça c'est encore plus simple. Et dans un système de pledge and review, finalement, c'est ce qu'on fait. Les pays proposent des choses, donc les fameuses INDC, les contributions nationales. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça va donner? Mais avant d'arriver à cette question, sur le prix du carbone, du coup, ça m'a fait poser plein de questions que je soumets au panel, mais pas forcément pour répondre aujourd'hui. C'est quel serait le bon niveau de prix unique? Quelle méthode pour la recommander? Alors, j'ai bien compris qu'il y avait une question de vote, mais finalement, si on était un conseiller pour un pays donné, quelle méthode on recommanderait afin de proposer quelque chose au vote? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, par ailleurs, de, si on essaye d'avoir un prix unique du carbone, d'avoir que ce soit les moins 10 ans qui gagnent? C'est-à-dire, finalement, pour mettre tout le monde d'accord, une façon simple, c'est de prendre le prix le plus faible. Il y a peut-être des exemples, s'il y a des questions dessus, je pourrais en donner. Troisième question, comment est-ce qu'on fait pour monitorer, pour suivre le prix du carbone? En fait, ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un prix du carbone? Et ça, là-dessus, la réponse n'est peut-être pas très simple. Alors, Là, on arrive aux INDC, et là, je rejoins Carlo, je me dis, à la question de Roger, INDC, est-ce que la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine ? J'aurais tendance à dire, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on ait une bouteille. Et ce n'est pas qu'une boutade. En fait, pour faire quelque chose, j'aurais tendance à dire, il faut s'appuyer sur les institutions existantes. On a peu de temps devant nous. Il faut faire des choses assez rapidement. Et finalement, les institutions existantes ont pas mal de problèmes, mais elles ne sont pas si mauvaises que ça. Côté UNFCCC, côté État, évidemment, il y a l'UNFCCC avec le processus des INDC. Et j'ai appris ce matin donc, que finalement, on n'était peut-être pas si loin. Alors, je n'ai pas regardé tes hypothèses, Carlo, dans le détail. On n'était peut-être pas si loin d'une trajectoire coût efficace. J'avoue, c'est pas mal. C'est quand même un message intéressant. Par ailleurs, moi, ce qui me semble important là-dedans, il n'y a pas que l'UNFCCC, on parle de la COP21, il n'y a pas que l'UNFCCC, il y a également le G20 et d'autres forums qui peuvent être utiles et faire avancer la discussion. Un point qui me semble important sur les INDC, c'est finalement ce qu'on appelle le monitoring, reporting et vérification. Ce n'est pas tout de dire qu'on va faire quelque chose, ensuite il faut quand même s'assurer qu'on l'a fait et qu'on a effectivement mis les choses en œuvre. Je ne crois pas trop aux sanctions internationales. J'ai du mal à voir comment on peut contraindre un État à faire quelque chose que, finalement, il ne veut pas faire. On est quand même sur de la bonne volonté, qu'on le veuille ou non. Deuxième chose qui pourrait marcher, dans les institutions existantes, il n'y a pas que les États. Et j'ai l'impression qu'au moins dans la première journée et demie, on s'est pas mal focalisé sur ce que peuvent faire les États. Et dans la fin de la deuxième journée, on s'est intéressé à ce que pouvaient faire les acteurs économiques, et notamment le secteur de la finance. Et là, je rejoins complètement Corso sur le fait que la finance peut avoir un rôle important. Patrick Bolton a parlé des institutions, de ce que peuvent faire les institutions individuelles pour gérer leurs risques. Il ne s'agit pas de protéger la planète, il s'agit de gérer leurs risques carbone. Il y a deux questions ensuite qui m'intéressent derrière cette gestion individuelle par les institutions des risques carbone. C'est premièrement ce que peuvent faire les institutions financières publiques, venant d'une association qui est dans laquelle la Caisse des dépôts et l'AFD sont, ça ne vous surprendra pas. Que peuvent faire les institutions financières publiques et quel effet d'entraînement peuvent-elles avoir sur le secteur privé ? Et la deuxième question, c'est quid finalement du risque systémique. Donc on a parlé de la Banque d'Angleterre. Les acteurs financiers sont là pour gérer leurs risques, ils ne sont pas là pour gérer la stabilité du système financier dans son ensemble. Et ce qu'on voit émerger, et c'est un débat relativement récent, c'est la question du climat comme risque systémique. Corso a parlé du Conseil de stabilité financière. Moi je retiens deux choses également, deux indices qui me font dire qu'il y a des choses qui se passent au-delà du Conseil de stabilité financière. Premier indice, en mai 2015, le groupe Caisse des dépôts a organisé avec la BEI et Paris Europlace à Paris un Climate Finance Day pour faire venir non pas des personnes qui s'intéressaient au climat, mais des personnes qui s'intéressaient à la finance. À l'UNESCO, on a eu 1200 personnes dans la salle. Je pense qu'on aurait organisé le même événement il y a 2 ans, on aurait eu 100 personnes. On l'aurait organisé il y a 5 ans, on aurait eu 20 personnes. Donc ça bouge. Et quand je dis des personnes qui s'intéressaient à la finance, des régulateurs, des investisseurs, des banquiers, des gens sérieux, pas forcément des gens très versés sur le climat au départ, mais qui s'y intéressent, pas pour sauver la planète encore une fois, mais pour gérer les risques. Deuxième chose qui me fait dire que ça bouge, à Lima, pour la réunion annuelle des institutions de Bretton Woods, on a pu voir une image assez curieuse. Sur la même photo, on a pu voir la Banque d'Angleterre, la Banque centrale de Chine, donc la People's Bank of China, et la Banque du Bangladesh, la Banque centrale du Bangladesh. Donc un pays émergent, un pays développé et un pays en développement. Les 3 gouverneurs des banques centrales assis à la même table pour parler de quoi ? Du climat. Ça, c'est nouveau. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qui va changer dans le futur, qui va être quelque chose d'assez impactant. Et c'est ma réponse à la question « Que peut-on faire ?» On peut certainement faire beaucoup de choses avec la finance. En tout cas, on peut, à mon avis, difficilement faire des choses ambitieuses sans la finance. Et je conclurai là-dessus en disant, aujourd'hui, quand on parle de finance-climat, on a l'impression que c'est une oxymore. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est faire en sorte que ça devienne un pléonasme. Donc, on va dire, intégrer le climat dans toutes les décisions financières des institutions qui nous gouvernent.
Oui. Bon, je crois qu'il y a plein de questions posées. Il y a un certain nombre de points d'accord et un certain nombre de points de désaccord. Moi, je voudrais simplement faire deux remarques. La première, c'est que sur la finance, si la finance fait quelque chose, elle se comporte simplement de façon rationnelle. Les entreprises et la finance sont soumises à un risque. Ce risque, c'est qu'il y ait une politique climatique sérieuse qui soit mise en place. Et comme ils sont rationnels, ils mettent en place des marchés d'assurance contre ce risque climatique. Donc il est très important que la plausibilité de la politique climatique s'accroisse. c'est ça l'essentiel, la finance suivra. Donc c'est le premier point. Deuxièmement, prix unique ou pas prix unique, Carlo nous a montré ce matin un diagramme dans lequel il y avait les INDC de chacun des pays, les coûts fictifs dans chacun des pays ou des groupes de pays qui étaient impliqués par ces choix d'INDC. Eh bien, à partir de ça, avec un petit peu d'hypothèse supplémentaire, on aurait pu calculer un prix du carbone mondial, des répartitions de quotas entre les différents pays, qui soit par étoile améliorant, c'est-à-dire qui soit meilleur pour tout le monde. Quand il n'y a pas de prix unique, alors faire un prix unique, ce n'est pas évident, je suis bien d'accord, et je ne suis pas sûr que je suivrai, malgré tout, malgré la grande confiance que j'ai dans Carlo, que je m'appuierai uniquement sur son diagnostic pour faire ça, mais il n'y a pas de problème. Si vous mettez deux pays qui ont des marchés du carbone avec des prix différents et qui ont mis leurs règles, qui ont décidé de leurs règles sans point de vue stratégique, hein, ils ont intérêt à se mettre ensemble. Ils y gagnent tous les deux. On a la même réduction avec des coûts plus faibles dans chacun des pays. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Moi, je suis absolument d'accord que l'information qu'il faudrait pour mettre un cap on trade mondial avec des quotas, etc., elle n'est pas disponible. Hein. Sauf si on croit Carlo, mais on doit le croire, mais jusqu'à un certain point seulement. Donc, la question de l'unicité du prix du carbone, elle va revenir, parce qu'il y a toujours, lorsqu'il n'est pas unique, des possibilités de rapprocher les systèmes et de faire que ce soit moins coûteux pour tout le monde. C'est simplement ça. Hein. Voilà. Et donc, c'est le premier point auquel je voulais réagir. Je voulais peut-être aussi réagir peut-être sur du point de vue de la gouvernance et de ce qu'on peut faire après Kyoto, etc. Moi, j'ai vu quand même, j'ai vu quand même émerger une idée qui est nouvelle, hein, qui a été, moi, laquelle je crois depuis tout le temps, mais je n'osais pas l'exprimer, hein, c'est que pour faire une meilleure gouvernance mondiale, il faut, si on a l'environnement et le commerce, il faudrait que l'accord porte sur l'environnement et le commerce. C'est-à-dire que, contrairement au cas dans lequel de Martine, dans lequel si on a discuté sur trop de sujets, ça devient impossible. Là, si on a discuté sur deux sujets, il est plus facile d'avoir un accord efficace en joignant ces deux sujets. Donc, je pense que les questions d'environnement et les questions d'aide commerce devraient être liées. Et la suggestion de Nordos faite il y a quelque temps de dire qu'il faut faire des clubs climatiques et mettre des taxes à l'importation qui protègent la coalition de ceux qui n'y adhèrent pas, c'est une mesure punitive. Moi, je n'aurais jamais osé le faire, parce que si j'avais dit ça, on aurait dit c'est un Français, ils sont tous protectionnistes, etc. Mais le fait que Nordos l'ait proposé ouvre une brèche, et une brèche dans une bonne direction. C'est-à-dire que si on veut un monde qui soit bien organisé, il faut que le commerce et l'environnement soient liés. Voilà, j'ai réagi un peu vivement, mais je passe la parole à qui la souhaite sur le sujet d'abord des prix, peut-être.
Sur les prix. Donc, à mon avis, pour le climat, il faut les prix de carbone les plus élevés possibles, au moyen. C'est, pour le climat, ce n'est pas forcément nécessaire qu'ils soient tous égaux. Ce n'est pas probable non plus. Le plus important, c'est que autant de pays possibles, autant de secteurs qui a un prix, et que ce soit un prix vraiment élevé. Et que ce soit unique, ça c'est juste pour épargner de l'argent. C'est pas, mais il y a beaucoup d'intérêts qui sont en contre, c'est difficile, donc ça viendra après. C'est pas compliqué.
Oui, Christian.
Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que lorsque, Roger, tu parles de cap and trade, il faut bien distinguer un cap and trade type Kyoto qui concerne les États, dont on sait, je pense maintenant tous, que c'est très difficile à mettre en place, et moi je pense que ça ne se pourra jamais se mettre en place pour une raison très simple.
Parce qu'on n'a pas lu Carlo.
Non, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'un État n'est pas en conformité, il commence à négocier et il sort de l'accord s'il ne fait pas la bonne négociation. Alors que lorsque tu mets en place un cap and trade sur des entreprises,
Tu n'as pas écouté les...
J'étais pas là quand il a parlé. Mais lorsque tu mets un cap and trade sur des entreprises, lorsqu'une entreprise n'est pas en compliance, elle paye une pénalité, elle se remet en conformité. Et donc je pense que... Je pense qu'une façon de trancher un peu le débat que vous avez tous les deux est la suivante. C'est que, certes, il faut partir de ce que font les pays et ce que sont capables de faire les pays. Et ce que font en grande majorité aujourd'hui les pays qui tarifient le carbone, ils font des cap and trade domestiques. Mais chaque pays, du fait de l'absence de coordination, il ne va pas loin dans son cap and trade. Et on voit bien que tous les cap and trade qui existent aujourd'hui dans le monde sont en général des cap and trade où, avant de mettre en place le dispositif, on a peur que le prix monte trop fort et 3-4 ans après, on gère des surplus de quotas. Donc je pense que une action extrêmement importante, c'est de faire de la coordination entre les cap and trade que les États mettent sur leurs propres industries, sur leurs propres acteurs. Et cette coordination, je pense qu'elle passe effectivement par le fait que si vous avez une forte coordination, vous allez converger vers un prix et une forte ambition, vous allez avoir la possibilité de converger vers un prix qui sera nettement supérieur à celui que vous atteignez lorsqu'il n'y a pas de coordination. C'est le point qui me semble extrêmement important. Et je pense que cette idée rejoint très directement celle de la constitution de clubs, qui seraient des clubs dans lesquels les pays feraient émerger à l'intérieur de leur espace économique un prix du carbone via des cap and trade domestiques, et qu'en rattachant ces cap and trade, on peut créer une ambition tout à fait nouvelle.
J'aimerais ajouter un autre thème, parce que hier, aujourd'hui, on a aussi parlé d'innovation technologique, et aujourd'hui, on a bien entendu qu'il y a des changements importants, il y a des innovations, surtout dans le domaine de l'énergie renouvelable, qui vont changer la profitabilité des investissements dans les énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Changer dans le sens que maintenant, ils sont presque concurrentiels avec les autres ressources fossiles. Donc, c'est un changement important, ce n'est pas encore suffisant, peut-être que ce matin l'exposé était un peu trop optimiste, parce qu'il y a des coûts cachés comme ceux reliés à l'intermittence de la production d'énergie, l'absence des systèmes de stockage, etc. Mais on est dans la bonne direction, on y est presque. Mais ce qui manque et qui serait facile à adopter, ça ne sera pas à Paris, ce n'est pas dans l'agenda, mais dans une conférence successive, c'est un grand plan international de recherche sur les technologies pour le climat. On l'a fait pour l'espace, quand on ne voyait pas très bien l'utilité d'investir autant d'argent pour aller sur la Lune ou pour envoyer des satellites un peu partout. Maintenant, on sait qu'envoyer des satellites, c'est très utile, parce que ça a changé les systèmes de diffusion des informations. Mais dans le cas du climat, on connaît beaucoup mieux les effets positifs d'un plan d'investissement de ce type. Mais un effort collectif public de recherche sur les technologies pour le climat serait une chose faisable, pas trop chère, relativement pas trop chère par rapport à tout le reste qu'on vient de dire, et qui aurait des effets très important parce que vraiment on est presque arrivé à trouver des solutions technologiques qui vont résoudre une grosse partie du problème pour le futur, pas pour le passé, parce que pour ce qui concerne le passé, on a déjà beaucoup des émissions dans l'atmosphère. Là aussi, il y a des solutions technologiques pour essayer de l'enlever. Il n'y a pas assez d'efforts. Et ça, c'est un peu de la myopie. Tu disais la finance va suivre. Mais on voit par exemple que la gestion des grandes sociétés pétrolières a été myope de ce point de vue-là. Mais ils n'ont pas su préparer le terrain pour le moment dans lequel les politiques du climat auraient fait et ces sociétés, leurs assets, leurs activités, leurs propriétés auraient perdu de la valeur. On l'a vu ce matin, cet après-midi, avec Patrick Bolton. Ils sont en train de perdre de la valeur. Peut-être qu'ils vont intervenir maintenant, c'est un peu tard, mais bon. Il y a certainement un effort global sur la recherche sur le technologie climat aurait des effets très importants.
Oui, non, je pense que c'est une très bonne idée, cet effort international. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas d'effort international. Par exemple, sur le nucléaire de troisième génération, il y a bien un effort international de ce type. Et effectivement, il serait très utile de l'étendre au renouvelable, au solaire, etc.
Ou à la sûreté mobile.
Oui, je crois que c'est une idée qui me semble bonne. Je ne sais pas si...
Merci pour ces deux jours très, très riches. On a beaucoup parlé de prix de CO2. Il a été fait mention, en particulier par Jean-Charles Ourcade, que le prix de CO2 risquait d'être trop faible pour faire bouger les lignes et qu'en même temps, il risquait d'être trop élevé par rapport à l'impact qu'il peut avoir sur l'économie. D'autre part, on n'a pas beaucoup parlé de régulation. On a un peu parlé de régulation financière tout à l'heure. Mais on n'a pas beaucoup évoqué la régulation. Or, quand on regarde l'Europe, ce qui n'a pas marché en Europe, c'est l'ETS. Par contre, ce qui a marché, c'est un certain nombre de régulations. Je pense en particulier aux constructeurs automobiles. Même chose aux États-Unis. Est-ce que, par rapport aux dictateurs bienveillants qu'on a évoqués, est-ce qu'il ne serait pas finalement plus facile de se mettre d'accord à l'échelle internationale sur un certain nombre de sujets qu'il faudrait indiquer comme étant des sujets qui vont subir des normes ou des réglementations fortes, quitte à coupler ça avec des recherches internationales, comme vous l'avez dit, sur la baisse des coûts, pour envoyer, et c'est ça qui me paraît le plus important, pour envoyer un signal clair et précis aux investisseurs et aux financiers de façon à ce que les investissements soient réorientés vers cette direction. Parce que ce qui a été dit ce matin sur la finance, c'est qu'il y avait un doute sur le timing. Il n'y avait pas forcément de doute sur la solution finale, sur l'objectif final, mais il y avait un doute sur le timing. Or, l'objectif final, c'est de décarboniser à 100% l'économie à la fin du siècle. Et donc... la question, c'est une trajectoire et un signal fort dès aujourd'hui pour rentrer finalement dans des normes. On a bien réussi à le faire à l'échelle européenne et au niveau des États-Unis sur plusieurs États. Pourquoi ne serait-il pas possible sur un certain nombre de sujets d'avoir des clubs de pays qui s'orientent vers des réglementations volontaires pour accompagner les nouvelles technologies ?
Rapidement, dans les cours de première année d'économie de l'environnement, on apprend qu'il y a deux types d'instruments économiques, hein, les réglementations et d'instruments de politique environnementale et ce qu'on appelle les instruments économiques, c'est-à-dire ceux qui agissent sur qui sont des réglementations, des règles, et ceux qui agissent sur les prix. Et on explique qu'il y a des choses où on peut faire des réglementations, il y a des choses où on ne peut pas le faire. Il y a des choses où c'est beaucoup plus efficace de faire sur les prix, et des choses où c'est plus efficace de faire. Alors, il est évident que pour le diesel, il faut mieux réglementer que mettre un prix sur l'émission de diesel, ça fait à peu près de sûr. Par contre, pour gérer des pollutions diffuses de gaz carbonique un peu partout dans le monde, il faut mieux mettre un prix que d'être le Central Planning Board ou le Gosplan mondial qui mettrait des réglementations sur toutes les usines du monde. Ça n'est pas réellement viable. Maintenant, qu'on puisse faire plus en termes de réglementation, je suis d'accord. Voilà.
Je pense que l'exemple des normes automobiles est peut-être à prendre avec quelques nuances, hein, et quelques exemples récents montrent que ça ne marche pas toujours. Je pense qu'on peut faire les deux, surtout, notamment dans le cas du diesel, qui est un cas que je connais relativement bien. On ne peut pas non plus oublier que, suivant la fiscalité qu'il y a sur le diesel et l'essence, on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux d'émissions, hein. Donc, je pense qu'on est dans un cas typique où l'instrument de la norme et l'instrument du prix sont parfaitement complémentaires.
Thomas, lors de la solution inaugurale au collège, nous a montré les effets prix de l'essence sur la consommation d'essence à travers le monde. C'était extraordinairement spectaculaire.
Je pense aussi, il y a Dallas Buttrock qui est ici, qui nous a parlé de la politique aux États-Unis, qui effectivement utilise beaucoup de réglementation maintenant pour son politique de climat. Et dans l'histoire, on a souvent vu que la réglementation, c'est un des premiers pas. Une fois qu'on a fait des règles, c'est dans l'intérêt des entreprises de commencer à utiliser les quotas donnés et de les négocier entre eux. Donc, ça peut être un pas qui mène après à des instruments plus économiques parce qu'ils épargnent de l'argent, mais ce n'est pas forcément le premier pas.
Un complément très rapide. Le financement de la transition énergétique, c'est à la marge rechercher des nouveaux financements, mais c'est avant tout rediriger les flux qui partent vers du marron pour les envoyer vers du vert. Et dans cette optique, les normes ont toute leur place, parce que quand on essaye de faire passer des flux du marron vers le vert, la première des choses à faire, c'est de faire moins de marron. Les normes, typiquement, ça peut servir à ça. Alors après, je rejoins Roger sur ce qu'il a dit sur les critères d'applicabilité, etc. Mais les normes peuvent être très utiles pour ça, pour augmenter, on va dire, le niveau d'ambition, si vous me permettez l'expression.
Merci. Je crois que nous arrivons un petit peu au terme. Nous n'avons pas résolu tous les problèmes, nous en avons évoqué un certain nombre. J'espère que ce que nous avons dit ici, vous continuerez à y penser et que collectivement, nous trouverons des solutions, puisque c'est un processus collectif de réflexion sur le monde et de réflexion sur la politique climatique. Donc j'espère que pendant ces deux journées, on a avancé. Et je vais laisser la parole à Thomas qui va conclure.
Juste une très rapide conclusion. Je voulais remercier beaucoup d'abord les intervenants. Et deuxièmement, le Collège de France, l'Institut Louis Bachelier, le staff, Julie Béret et Thomas Christel, qui nous ont aidés ici, vous, qui sont venus, qui êtes restés, qui ont posé des questions intéressantes, qui ont participé dans le débat. Et à toi, Roger, pour avoir co-organisé tout cela. Merci.
Et en effet, il fallait remercier surtout Roger et Thomas pour le travail qu'ils ont fait. Merci beaucoup.